Théologie biblique par le père Philippe à Saint-Joseph, le 22 janvier 85.
Continuer cette lecture de l'Exode pour essayer de mieux comprendre dans la vision de Dieu ce que représente ce médiateur premier qui est Moïse. Alors on a vu Jéthro, prêtre de Madian, beau-père de Moïse, intervenir auprès de Moïse et lui donner un sage conseil. Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple. Et le peuple se tint près de Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce que celui-ci faisait pour le peuple. Et il dit, « Qu'est-ce que tu fais là pour le peuple? Pourquoi sièges-tu seul ?» Alors que tout le peuple se tient debout, près de toi, du matin jusqu'au soir. On ne sait pas s'il a de la miséricorde pour le peuple ou pour Moïse. Hein. Il a une miséricorde pour les deux, je crois. Moïse dit à son beau-père, « C'est que le peuple vient vers moi pour consulter Dieu. » Lorsqu'ils ont une affaire, ils viennent vers moi. Ils prononcent entre les parties et je fais connaître les décrets de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Ce que tu fais là n'est pas bon, n'est pas bien. Tu t'épuiseras certainement, et toi et ce peuple qui est avec toi, car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne peux l'accomplir à toi seul. Maintenant, écoute mon appel. Je vais te conseiller et que Dieu soit avec toi. Toi, sois devant Dieu pour le peuple et tu présenteras, toi, les affaires à Dieu. Tu les avertiras des décrets et des lois et tu leur feras connaître la voie où ils doivent marcher et la façon dont ils doivent agir. Et toi, tu distingueras entre eux, tout ce peuple, des hommes capables, craignant Dieu, des hommes sûrs, ennemis du gain, et tu les établiras sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ils jugeront le peuple en tout temps, toute affaire importante. Ils te la présenteront. Mais toute affaire mineure, ils la jugeront eux-mêmes. Allège ainsi ta charge, qu'ils la portent avec toi. Et si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras tenir, et ainsi tout ce peuple ira en paix dans son lieu. Moïse écouta l'appel de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables d'entre tout Israël et il les plaça à la tête du peuple comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Il jugeait le peuple en tout temps. L'affaire difficile, il la présentait à Moïse. Mais toute affaire mineure, ils la jugeaient eux-mêmes. Puis Moïse laissa partir son beau-père qui s'en alla dans son pays. Très curieux ce petit passage du beau-père. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, hein? On voit très bien l'aspect matériel, c'est très simple. Hein? Et c'est très intéressant. Je crois que c'est plein de sagesse, hein, divine. De montrer que Moïse est capable, tout en commandant, de recevoir un conseil du beau-père. C'est déjà pas si mal. Tout en commandant, tout en ayant la responsabilité, il est capable de recevoir le conseil d'un autre. Un conseil qui l'aidera à être davantage médiateur. Vous voyez, le conseil fait que Moïse va entrer davantage dans le rôle propre que Dieu lui donne. Il s'épuise à des choses secondaires. Maintenant, écoute mon appel. Je vais te conseiller et que Dieu soit avec toi. Toi, soit devant Dieu pour le peuple. Alors, il va définir à Moïse son rôle propre de médiateur. Soit devant Dieu pour le peuple. Et tu présenteras, toi, les affaires à Dieu. Bien, ce rôle de médiation. Tu les avertiras des décrets et des lois, et tu leur feras connaître la voie où ils doivent marcher et la façon dont ils doivent agir. Donc, être davantage médiateur. Alors, est-ce que ce n'est pas ça, vous voyez, le rôle d'un conseil qu'on doit recevoir, qui vous rappelle ce qu'il y a de plus spécifique dans la mission qu'on a, pour remplir davantage cette mission et ne pas se laisser encombrer par des choses secondaires. Moïse risquait de se laisser encombrer par des choses secondaires, par générosité. C'est la générosité de Moïse, c'est merveilleux. Toute la journée, il était là. Et à côté de lui, tout le peuple était là, toute la journée. C'est une générosité prodigieuse. Ce n'est pas la générosité que Dieu cherche en premier lieu. Il cherche la sagesse. Et être sage consiste à regarder les choses principales qu'on doit faire et les choses secondaires les laisser aux autres. Le principe de subsidiarité, il commence là. Hein. Mais c'est le beau-père de Moïse qui l'a inventé. Il ne faut pas l'oublier. Parce que c'est exactement ça. C'est accepter qu'on soit aidé. Accepter, c'est sage, de ne pas vouloir tout faire soi-même. Si on veut tout faire soi-même, on est débordé. Alors on ne fait plus bien ce pourquoi on est fait. Je crois qu'il y a ce conseil de sagesse d'un homme plus âgé que Moïse, qui est lié à lui, qui n'est pas Moïse, c'est évident, mais qui voit les choses dans un regard peut-être plus objectif, parce qu'il n'est pas directement engagé dedans. Alors, c'est rendre Moïse plus à sa propre mission. Et Moïse accepte humblement cette correction, ce conseil. Il se laisse conduire par son beau-père. Je crois que c'est ça qui nous est montré. Alors, c'est une immense conséquence pour la suite, parce que c'est l'organisation interne du peuple d'Israël qui commence. Alors, vous voyez, si on est attentif, hein, on va comprendre que cette organisation interne, Dieu veut que Moïse ait cette initiative. C'est le peuple de Dieu, mais il est gouverné par un homme qui doit prendre ses initiatives. Il n'y a pas de lumière spéciale donnée par Dieu à Moïse. C'est le conseil d'un homme. C'est aussi très important, ça, pour nous faire comprendre que Moïse n'est pas un illuminé. Parce qu'un illuminé ne voudrait recevoir conseil de personne. Tandis qu'au contraire, si vous êtes mû par l'Esprit Saint, vous savez très bien qu'il y a le don de conseil. Et le don de conseil consiste à recevoir un conseil même de son beau-père. Ce qui est quand même quelque chose d'assez étonnant. Quand on est Moïse, hein, c'est assez étonnant. Quand on est chef de ce peuple et qu'on est chargé par Dieu de le conduire pour le mystère de l'adoration. Alors, c'est la justice. Alors aussi, on pourrait, vous voyez, j'essaie de comprendre théologiquement cette intervention de Jéthro. Elle est très importante. Hein? Elle est très importante. Parce que la justice demande qu'il y ait un ordre. Et autant l'attitude religieuse fait qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et nous, autant l'attitude de la justice réclame un ordre. Et c'est Moïse qui va établir un ordre parmi tous ceux qui vont juger le peuple. Et c'est lui qui l'établit, sur le conseil de son beau-père. Alors, vous voyez, ce peuple qui est conduit directement par Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, mais Moïse est directement lié à Dieu, Moïse doit jouer le rôle de cause seconde à l'égard de ce peuple pour la justice. Alors vous voyez les deux se lier. L'instrument qui est vraiment instrument de Dieu, cause instrumentale, Moïse est cause instrumentale, et être cause instrumentale ne supprime pas la cause seconde. Et je crois que c'est cela qui nous est montré. L'illuminisme consisterait à dire, puisque je suis instrument de Dieu, je n'ai plus besoin de conseil de personne d'autre parce que je ne suis jamais cause seconde. Ah, pas du tout. Dieu peut vous prendre pour réaliser quelque chose comme instrument de Dieu, et Dieu réclame de vous d'être cause seconde pour tout ce dont vous êtes responsable. La construction, l'élaboration du peuple d'Israël, au niveau de la justice, puisque un peuple s'édifie au niveau de la justice, et c'est au niveau de la justice. Là aussi, on retrouve des choses qui seraient très intéressantes à regarder. C'est-à-dire, ce serait très intéressant de faire la philosophie politique du peuple d'Israël dans la lumière de Moïse. Parce qu'il y a quelque chose d'important, c'est une philosophie politique religieuse, mais c'est une philosophie politique. Et vous voyez tout de suite que la structure d'un peuple dépend des magistrats. Et là, c'est commun à ce qui nous est montré ici et ce qui nous est commun aux Grecs. C'est les magistrats qui forment la structure d'un pays. Chapitre 19. Le troisième mois, après leur sortie du pays d'Égypte, en ce jour-là, les fils d'Israël arrivèrent au désert de Sinaï. Le troisième mois, trois mois de noviciat, seul avec Moïse. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et campèrent dans le désert. Là, Israël campa devant la montagne. Alors nous allons avoir ce grand épisode très extraordinaire et très beau. Vous avez lu l'autre jour l'interprétation du père Barthélemy, on lui disait au réfectoire. Bien, nous allons reprendre le texte tel qu'il nous apparaît ici dans l'exemple. Quant à Moïse, il monta vers Dieu. Vous voyez ? Alors, l'instrument. Cause seconde, il a structuré le peuple par les juges et il a voulu mettre un intermédiaire entre le peuple et lui pour se réserver des cas difficiles. Quant à Moïse, il monta vers Dieu. Yahvé l'appela de la montagne en disant : tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu déclareras aux fils d'Israël, vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené près de moi. Je crois que c'est la première fois qu'on a cette expression qu'on retrouve dans les psaumes, qui est si belle. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle. C'est Yahvé qui, pour son peuple, c'est l'aigle et qui porte son peuple. À son rythme, à lui. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené près de moi. Et maintenant, si vous écoutez vraiment ma voix, et si vous observez mon alliance, vous serez mon bien particulier parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. C'est vous qui serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Telles sont les paroles que tu diras aux fils d'Israël. C'est la première fois, pour ceux qui s'intéressent à la question du sacerdoce, c'est la première fois qu'il est dit que le peuple de Dieu est un royaume de prêtres, une nation sainte. Mais au point de vue de l'ecclésiologie, c'est important, parce que c'est le premier moment. C'est le premier moment où on voit ce regard de Dieu sur ce que représente le début de l'Église. Peuple de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu diras aux fils d'Israël. Moïse vint convoquer les anciens du peuple. Il exposa devant eux toutes ces paroles, comme le lui avait commandé Yahvé. Tout le peuple répondit unanimement et dit, « Tout ce qu'a dit Yahvé, nous le pratiquerons. » Moïse rapporta à Yahvé les paroles du peuple. Yahvé dit à Moïse, « Voici que je vais venir vers toi dans l'épaisseur de la nuée. » Là aussi, c'est intéressant de voir les modalités de la présence de Dieu. Il faudrait regarder théologiquement toutes les modalités de la présence de Dieu. Il y a toute la théologie de la présence de Dieu qu'on doit faire à travers tout l'Ancien Testament et qu'on doit reprendre du reste dans le Nouveau Testament. Je vous l'ai dit à propos de Saint Jean, qu'il y a toute une théologie de la présence de Jésus. Eh bien, il est intéressant de voir, déjà dans l'Ancien Testament, cette présence de Yahvé. Moïse rapporta à Yahvé les paroles du peuple. Yahvé dit à Moïse, « Voici que je vais venir vers toi. » dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi, et quand toi aussi il croit à jamais. » Donc, confirmation de la mission de Moïse, hein. Une espèce de mystère du baptême de Moïse dans sa mission, hein. Une espèce de transfiguration. Afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi, et quand toi aussi il croit à jamais. Moïse annonça à Yahvé les paroles du peuple. Yahvé dit à Moïse, va vers le peuple, et tu les sanctifieras aujourd'hui et demain. Qu'ils nettoient leurs vêtements, et qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, Yahvé descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Donc une présence spéciale de Dieu sur le mont Sinaï. Dans l'épaisseur de la nuée. C'est vrai que le Sinaï, c'est le grand lieu de la présence de Dieu. Tu fixeras au peuple une limite alentour, en disant « Gardez-vous de monter sur la montagne et même d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera mis à mort. » Ce n'est pas une main qui la touchera, mais il sera lapidé ou percé de flèches. Bête ou homme, il ne vivra pas. Quand retentira la corne de bélier, ils monteront sur la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils nettoyèrent leurs vêtements. Puis il dit au peuple, « Soyez prêts. » Dans trois jours, n'approchez pas de la femme. Or, le troisième jour, dès le matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne et un son de corps très puissant. Tout le peuple qui était dans le camp trembla. Moïse fit sortir le peuple de la maison à la rencontre de Dieu, hors du camp. Ils se tinrent debout en bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout fumant, parce que Yahvé y était descendu dans le feu. Une orchestration extraordinaire. Hein. C'est vrai, c'est chose point de vue liturgique. Parce que faut toujours comprendre la liturgie. Alors, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Vous voyez, c'est très important. Pensez toujours à ce geste de la scène. Parce que c'est une grande préfiguration du mystère de l'alliance avec la loi. Préfiguration de l'alliance dans l'Eucharistie. Et donc, il ne faut jamais séparer les deux. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important de voir cette orchestration extraordinaire. C'est magnifique. Vous voyez, on transfigure Moïse. Hein. Il y a une espèce de transfiguration de Moïse à travers tout ça. Moïse va devenir quelqu'un qui est lié à Dieu d'une façon très très particulière, séparé des hommes, ce geste de séparation. Et tout ça est plein évidemment d'un langage, d'une réalité exprimée par ce symbole, n'est-ce pas ? Quand la sainteté nous sépare des hommes pour nous lier à Dieu. Et quand je dis transfiguration de Moïse, c'est vrai, il y a une transfiguration de Moïse, il y a quelque chose de très spécial qui est lié à cela. Le mont Sinaï était fumant, parce que Yahvé y était descendu dans le feu. Sa fumée monta comme une fumée de fournaise, et toute la montagne trembla violemment. Le son du corps devenait de plus en plus fort. Moïse parlait et Dieu lui répondait par une voix. Vous voyez bien le mystère de transfiguration. Yahvé descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. Yahvé appela Moïse au sommet de la montagne. Et Moïse monta. Yahvé dit à Moïse, « Descends. Avertis le peuple de ne pas se ruer vers Yahvé pour voir. » Dès qu'il a monté, Dieu lui descend. Vous voyez bien, c'est quand même très très significatif aussi. Hein. Dieu l'attire. Il doit monter jusqu'en haut. Puis quand il arrive là, « Descends. » Avertit le peuple de ne pas se ruer vers Yahvé pour voir. Il en tomberait beaucoup. Même les prêtres qui s'avancent vers Yahvé, qu'ils se sanctifient de peur que Yahvé ne les assaille. Moïse dit à Yahvé, le peuple ne peut pas monter sur le mont Sinaï, puisque toi-même, tu nous as ainsi avertis. Délimite la montagne et déclare-la sainte. Le lieu est saint, le lieu qu'on ne peut pas souiller, donc le lieu qu'on ne peut pas, sur lequel on ne peut pas marcher. Il faut que la montagne soit un lieu saint. Délimite la montagne et déclare-la sainte. Yahvé lui dit, « Va, descends, puis tu monteras, toi et Aaron avec toi, et que les prêtres et le peuple ne se ruent pas pour monter vers Yahvé, de peur qu'il ne les assaille. » Moïse descendit vers le peuple et leur dit. Vous voyez, tout ce qui est impliqué dans ce passage, c'est aussi une préfiguration du temple, hein, la rencontre de Dieu avec l'homme et le Saint des Saints. Et le Saint des Saints, c'est le lieu justement où il y a uniquement celui qui rencontre Dieu et Dieu et les autres sont mis plus loin et sont écartés. Et là, il y a tout de suite cette détermination, il y a tout de suite ce lieu qui est un lieu saint. Une clôture, vous voyez, C'est ça, un lieu réservé à ceux qui sont totalement consacrés. Et qui sont entièrement consacrés. Et qui ne sont que pour Dieu. Et même les prêtres, hein, voyez, c'est très significatif. C'est Moïse. Là, tout l'abîme qu'on montre entre Moïse et les prêtres. Moïse, c'est l'envoyé de Dieu, c'est le médiateur par excellence. Alors, il lui faut ce lieu qui lui est propre. Dieu dit toutes les paroles que voici. Moi, Yahvé, je suis ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne te feras pas de statue ni aucune forme de ce qui est dans le ciel en haut ou de ce qui est sur la terre en bas ou de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras donc pas devant eux, et tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alors nous retrouvons le Dieu jaloux, qui avait été déjà dit une fois, vous savez bien, au moment de la circoncision, à Abraham. C'était... Moi, Yahvé ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, châtiant la faute des pères sur les fils, sur la troisième et sur la quatrième génération, pour ceux qui me haïssent. C'est aussi très très curieux ça. Parce que, au point de vue habituel, la faute ne porte pas sur les enfants. Mais ici, on montre qu'il y a une espèce de lien qui doit se réaliser, châtiant la faute des pères sur les enfants, sur la troisième, sur la quatrième génération, pour ceux qui me haïssent. Mais qui témoigne fidélité à des milliers pour ceux qui n'aiment et observent, pour ceux qui m'aiment et observent mes commandements. Tu ne prononceras pas en vain le nom d'Yahvé, ton Dieu. Car Yahvé ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom en vain. Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu œuvreras et tu feras tout ton travail. Mais le 7e jour est un sabbat pour Yahvé, ton Dieu. Et tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton béni, ni ton bétail, ni ton résident, et qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Yahvé a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui se trouve. Mais il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi Yahvé a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Donc vous voyez l'importance du sabbat ici exprimée, de cette manière très spéciale pour montrer... C'est comme le reflet dans le temps du repos de Dieu. Le repos de Dieu. Dieu s'est reposé après la création. Il faut qu'il y ait dans l'homme créé à l'image de Dieu, après son travail, un repos. Donc, si on comprend bien, le repos de Dieu, c'est sa propre contemplation. Et le repos de l'homme en tant qu'il est choisi par Dieu, c'est l'adoration qui conduit à la contemplation. C'est une adoration contemplative. L'homme doit se mettre dans cette attitude du repos. Voilà pourquoi Yahvé a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Donc ce jour est sanctifié, il est sanctifié par l'adoration, il est sanctifié par la contemplation. Tu honoreras ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur le sol que Yahvé ton Dieu te donne. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne déposeras pas contre ton prochain en témoin mensonger. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Tout le peuple voyait les tonnerres, les flammes, le son du cor et la montagne fumante. Le peuple eut peur. Ils vacillèrent et se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle avec nous, toi, et nous écouterons. Mais que Dieu ne parle pas avec nous, de peur que nous mourions. » Comme c'est intéressant à voir ça. La crainte qui étouffe l'amour. Ils ont tellement peur. Moïse est pris. Il est pris par Dieu. Il est saisi par Dieu. Il échappe. Toute la sécurité du peuple d'Israël, c'est Moïse. Toute la sécurité. Ils ont passé la mer Rouge, à cause de Moïse. C'est Moïse qui leur a donné la manne, pas instrumentalement, mais c'est toujours leur sécurité. Or, Dieu a l'air de reprendre Moïse. C'est très significatif, c'est Dieu qui reprend Moïse à lui. C'est Dieu qui cache Moïse et qui le prend dans une intimité nouvelle. Alors, à ce moment-là, le peuple est comme frustré. Le peuple eut peur. Ils vacillèrent et se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle avec nous, toi, et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne parle pas avec nous, de peur que nous mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne craignez pas, car c'est afin de vous éprouver que Dieu est venu. Et afin que sa crainte sur vous, que sa crainte soit sur vous, pour que vous ne péchiez point. » Le peuple se tint à distance, tandis que Moïse s'avança vers la sombre nuée où était Dieu. Alors, il y a un partage qui se fait, hein. C'est très important de bien souligner ce premier partage qui se fait par la crainte. La crainte que Moïse soit emporté par Dieu. Ça me semble très net, c'est bien ce point de vue-là. Moïse, médiateur, a été la sécurité pour le peuple d'Israël, une sécurité qui est comme une présence de Dieu, mais subitement, quand Dieu se manifeste avec sa toute-puissance, avec toute sa force, avec toute sa présence, et qu'il a l'air d'emporter Moïse avec lui, alors à ce moment-là, c'est la crainte, c'est la peur, c'est l'angoisse. Le peuple se tint à distance, tandis que Moïse s'avança vers la sombre nuée où était Dieu. Yahvé dit à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Vous avez vu vous-même que du ciel j'ai parlé avec vous. Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent. Et vous ne ferez pas des dieux d'or. Tu me feras un autel de terre sur lequel tu immoleras tes holocaustes, tes sacrifices de paix, ton petit et ton gros bétail, en tout lieu où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Oui, toujours la bénédiction. Hein? La présence, je viendrai vers toi et je te bénirai. Et si tu me fais un autel de pierre, tu ne le bâtiras pas en pierre de taille, car en brandissant ton ciseau sur elle, tu les profanerais. Tu ne monteras point par des degrés à mon autel, afin que ta nudité n'y soit point découverte. Les conseils de Dieu. Vous voyez donc, là encore, hein, c'est toujours cette espèce de partage qui se fait, je crois que c'est ça que nous devons saisir, ce partage qui se fait de celui qui est le médiateur et qui est pris par Dieu et qui devient le béni de Dieu, qui est comme consacré par Dieu. Tu me feras un autel de terre. Et si tu me fais un autel de pierre, tu ne le bâtiras pas en pierre de taille, car en brandissant ton ciseau sur elle, tu les profanerais. C'est curieux, hein? Ces recommandations de Dieu. C'est toute une liturgie. Hein. C'est Dieu qui commande de faire un autel et c'est Moïse, législateur, vous voyez, qui est premier législateur au niveau proprement liturgique. Consacré par Dieu, construire un autel et Dieu qui veut cet autel en précisant un autel de terre et non pas un autel de pierre de taille. Quand c'est l'heure, je ne sais pas quelle heure il est, je n'ai oublié ma montre. Combien ? À quelle heure ? Quelle heure ? 6h, 10h. Voici les règles que tu exposeras devant eux lorsque tu achèteras un esclave hébreu. Il servira 6 années. La 7e, il s'en ira libre. Sans rien payer. Oui, le passage de l'esclave à la liberté. Alors on voit bien ici. Lorsque tu achèteras un esclave hébreu, il servira 6 années. La 7e, il s'en ira libre. Dieu a l'air de considérer que l'esclavage n'est pas si mauvais, n'est-ce pas ? Vous voyez bien. C'est curieux quand on voit le parallélisme. Hein. Alors là, c'est justement toute la considération qu'il faut faire grande attention pour nous. Des questions de civilisation, de mœurs. Il ne s'agit pas de confondre. Voici les règles que tu exposeras devant eux. Lorsque tu achèteras un esclave hébreu, il servira 6 ans. La 7e, il s'en ira libre. Vous voyez, la 7e, c'est toujours, hein. Le chiffre 7, le sabbat de la semaine, le sabbat des 7 ans. Et vous voyez la gratuité de Dieu. Aristote ne dit pas ça. Qu'au bout de 7 ans, il faut le libérer. S'il est entré seul, il s'en ira seul. S'il était marié, sa femme s'en ira avec lui. Si c'est son maître qui lui donne une femme et qu'elle lui enfante des fils ou des filles, la femme et ses enfants appartiennent à son maître. Il s'en ira seul. Mais si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme, mes fils, je ne veux pas m'en aller libre », son maître le fera approcher de Dieu. Il le fera approcher du ventail ou du montant de la porte. Son maître lui percera l'oreille au perçoir et celui-ci le servira à jamais. Hein ? La marque, il ne faut pas l'oublier. Quand on parle dans les sacrements qu'il y a une marque, c'est ça, symbolisme. Il percera l'oreille au perçoir. On est lié à jamais. Et alors à ce moment-là, c'est plus au bout de 7 ans. C'est extrêmement curieux, cette question de la loi que Dieu donne à Moïse. Alors évidemment, sous-jacent tout ça, il faudrait regarder tout le contexte historique dans lequel ça puisse se manifester, mais nous essayons de comprendre. Dieu est le maître de la vie et de la mort. Dieu est le maître de la liberté. Et c'est ça qui nous est montré. C'est la première théologie. Vous voyez, on a vu la théologie de la libération par rapport au Pharaon. On voit ici une théologie de la libération à l'intérieur même du peuple d'Israël. Lorsque tu achèteras un esclave hébreu, il servira 6 années. Ce n'est pas une libération, vous voyez, qui est donnée comme une espèce de gratuité absolue, non. Il y a une mesure, exactement comme pour la libération à l'égard du peuple d'Israël vis-à-vis de l'Égypte. Il y a une mesure. C'est une libération qui se fait dans la sagesse de Dieu, dans l'ordre de la sagesse de Dieu. Je crois que c'est cela qui nous est montré. Oui, on pourrait dire la libération, c'est la miséricorde absolue. Non, Dieu ne supprime pas certaines coutumes immédiatement. Il y a une espèce d'ordre de sagesse, de prudence. Alors on comprendra, voyez, ce que dira saint Paul dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de maîtres, il n'y a plus d'esclaves. Mais intérieurement, sans libération nécessairement extérieure. Et je crois que c'est la même chose ici qui nous est montrée dans un ordre de sagesse, alors de façon beaucoup moins forte évidemment, mais c'est ce gouvernement de Dieu qui, au moment du Sinaï, intervient directement. Dieu fait une grande réforme, un renouveau complet pour le peuple d'Israël. Ça, c'est le cas de vous dire. C'est un renouveau complet. Ce n'est pas une révolution, pas du tout. C'est un renouveau complet. Un renouveau qui montre là où Dieu intervient directement. Et un renouveau qui, en même temps, garde certaines coutumes. Conservare, renovare. Le gouvernement de Dieu. Parce que c'est un des moments très importants, hein, de l'intervention directe de Dieu pour son peuple en se servant de Moïse. Et vous voyez, on y reviendra tout à l'heure, parce que toutes les paroles que Dieu dit d'abord à Moïse, il y a d'abord comme une initiation qui est faite à Moïse. Moïse est d'abord celui qui reçoit les secrets de Dieu. Et Moïse ensuite devra aller les transmettre. C'est quelque chose qui respecte très profondément le point de vue de Moïse en tant que médiateur. Et chaque fois que nous voyons ces petits détails, on serait très curieux de voir là les pères de l'Église, ont essayé de voir tous les symbolismes qui sont impliqués dedans. C'est vrai qu'il y a des symbolismes, mais il y a aussi, et je crois que c'est peut-être la première chose qu'on doit voir, c'est la manière dont Dieu renouvelle, le renouveau. Et la théologie du renouveau, elle doit être prise dans au Mont Sinaï. Parce que c'est un renouveau que Dieu réalise à l'égard de son peuple. Quand il était en Égypte, il avait pris les mœurs du Pharaon. Il n'était plus le peuple religieux. Il était un peuple entièrement paganisé. Comment se fait le renouveau? Alors, il se fait par le désert et il se fait par la montagne. Toujours. Vous voyez toujours le désert et la montagne. En Jésus, toujours, le désert et la montagne, ce sont les lieux de la prière. C'est donc par le point de vue du désert, l'adoration, et la montagne, la rencontre directe avec Dieu. Et c'est par là que va se faire ce renouveau. Symbolise du désert, le lieu de l'adoration. Il faut quitter l'Égypte, le pays de l'efficacité, le pays de l'esclavage, mais de l'efficacité aussi. Il ne faut pas oublier, ils pleurent les oignons d'Égypte. On ne pleure pas uniquement sur le travail, on pleure sur les fruits du travail. Et donc quand on est bien payé, on accepte un travail dur. Alors il y a ça, il y a sortir de cette efficacité pour aller dans le désert. Et le désert est rude, parce que le désir nous oblige de nous mettre dans une attitude d'un renouveau religieux, par l'adoration et la dépendance immédiate de Dieu, où Dieu se fait l'éducateur par la nourriture. L'éducation première, c'est la nourriture, et Dieu éduque son peuple par la manne. Première éducation, c'est vraiment le renouveau fondamental. Vous voyez, toute politique implique une éducation. Et nous voyons la manière dont Dieu rééduque son peuple. Il le reprend en main pour en faire son peuple, un peuple religieux. Et ceci, c'est net quand vous regardez successivement toutes les interventions de Dieu. Et en même temps, les murmures, les mauvaises humeurs. On n'aime pas beaucoup d'être rééduqué. La première éducation ne revendique rien parce qu'on est trop petit, mais la seconde éducation, la rééducation du peuple religieux, le noviciat de ce peuple, 40 ans, c'est quand même quelque chose. Et Dieu qui le reprend et qui lui donne son intervention directe. Et alors, l'aspect de la rééducation avec Moïse, par l'intermédiaire de Moïse, par la médiation de Moïse. Et c'est au fond ça qui est dur pour le peuple. Le peuple aimerait d'avoir son chef. Non, il faut qu'il soit éduqué par Dieu, selon les mœurs de Dieu, pour être redonné ensuite au peuple. Et Dieu lui dit de redescendre. Mais penser d'une autre manière, mais c'est toujours intéressant d'avoir ces petites analogies derrière. Pensez à ce que dit Platon à propos de la caverne. Vous voyez, le symbolisme tout à fait différent. Mais c'est quand même quelque chose comme ça, parce qu'au fond, quand vous regardez ce que c'est que la République, vous voyez comment Platon pense à un renouveau complet de ce que représente pour lui le peuple grec, le peuple d'Athènes. Comment le renouveler complètement ? Alors lui, c'est uniquement par la connaissance. Ici, Dieu rééduque son peuple par la manne, en premier lieu, en lui donnant l'eau pure, et la manne et l'écaille, donc par la nourriture. Donc c'est une rééducation très radicale, fondamentale, puisque toute éducation commence par la nourriture, vous savez bien. Et c'est toujours, ça se maintient tout le temps comme ça, c'est toujours la nourriture qui éduque en premier lieu. Et puis ensuite, par le médiateur, c'est-à-dire par Moïse, en donnant tout un règlement de vie. Parce que que à Moïse, il donne vraiment tout un règlement de vie. Il donne des lois nouvelles. Alors continuons, mais si l'esclave dit « J'aime mon maître », oui, « J'aime mon maître », c'est l'amour qui est au-delà de l'esclavage. « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, et je ne veux pas m'en aller libre. » Cet esclave suffisamment prudent pour comprendre qu'il est mieux d'être avec son maître. Et il a un amour pour son maître. Son maître le fera approcher de Dieu. Il le fera approcher du ventail et du montant de la porte. Son maître lui percera l'oreille au perçoir et celui-ci le servira à jamais. Vous voyez cette petite liturgie avec ce petit sacrement pour l'esclave, et comment le maître va montrer qu'il ne va jamais l'abandonner. Il perce l'oreille, un contrat, mais un contrat qui se fait avec le sang, un contrat qui se fait dans un lien charnel. Il y a un lien qui doit se faire entre le maître et l'esclave. Et c'est l'amour permet qu'on est au-delà de l'esclavage. Et pourtant, on reste esclave. C'est extrêmement fort, ça. Hein, montrer que la liberté n'est pas l'absolu. Hein, ça, c'est dit. Qu'est-ce qui est l'absolu? C'est l'amour. Et c'est dans un lien d'amour qu'on peut alors tolérer que l'esclave demeure esclave. Alors que précédemment, on voit très bien, il faut le libérer s'il veut être libéré. Il faut le sabbat. Tandis que là, s'il ne veut pas être libéré, parce qu'il aime, il a compris qu'il y avait quelque chose de plus. Il faut réfléchir. Hein. Je vous ai dit, puisqu'on fait le cours sur la politique, hein, la philosophie politique, il y a tout un cours, et ça coïncide, sur la politique religieuse telle que Dieu a voulu l'instituer avec Moïse. Et ça, c'est vraiment une politique religieuse. C'est pas simplement une politique humaine, c'est une politique religieuse. Et c'est Dieu qui intervient, c'est Dieu qui montre à Moïse comment il faut faire les choses. Et il y a la place de l'esclave par rapport au maître. Lorsqu'un homme vend sa fille comme servante, pas très édifiant, hein. Quand un homme vend sa fille comme servante, elle ne s'en ira pas comme s'en vont les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui se l'était destiné, il la fera libérer. Il n'aura pas le droit de la vendre à un peuple étranger après l'avoir trahi. Si la destinée de son fils, s'il la destine à son fils, il la traitera selon le droit des filles. S'il en prend une autre pour lui, il ne retranchera rien de sa nourriture, ni de son vêtement, ni de ses droits conjugaux. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra s'en aller sans rien payer, sans donner d'argent. Là aussi, c'est intéressant, vous voyez, une limite à l'aspect de l'esclavage. Alors, c'est une limite très spéciale lorsqu'un homme vend sa fille comme servante. Donc c'est un homme libre qui veut servir de ses filles pour avoir de l'argent. Hein? C'est bien ça. Ça représente quelque chose. Hein? Lorsqu'un homme vend sa fille comme servante, elle ne s'en ira pas comme s'en vont les esclaves. elle n'est pas esclave. Donc la distinction, alors c'est pas précisé hein, quel est le droit de l'esclavage, ce qu'Aristote veut préciser, qu'est-ce que c'est que l'esclavage par nature, qu'est-ce que c'est que l'esclavage par violence, n'est-ce pas ? Si c'est pas précisé, un état de fait. Si elle déplaît à son maître, qui se l'était destiné, il la fera libérer. Il n'aura pas le droit de la vendre à un peuple étranger, après l'avoir trahi. Alors, le peuple étranger, pourquoi ? On n'a pas le droit de mettre quelqu'un dans un péril tel qu'il ne pourra plus adorer le vrai Dieu. Et donc, qu'est-ce qui met la limite là, vous voyez ? C'est d'appartenir au peuple d'Israël qui adore le vrai Dieu, qui est consacré à Dieu. On n'a pas le droit. Et des limites. Et vous voyez que c'est le salut de son âme qu'on regarde en premier lieu, hein, dans cette vision-là. S'il la destine à son fils, il la traitera selon le droit des filles. S'il en prend une autre pour lui, il ne retranchera rien de sa nourriture, ni de son vêtement, ni de ses droits conjugaux. Et s'il ne fait pas pour elle, ces trois choses, elle pourra s'en aller sans rien payer, sans donner d'argent. Qui frappe un homme à mort sera mis à mort. Mais s'il ne le traquait pas et que Dieu l'ait présenté à sa main, je te fixerai un lieu où il pourra s'enfuir. Que si un homme en veut à son prochain, jusqu'à le tuer par ruse, d'auprès de mon autel, tu devras l'arracher pour qu'il meure. Ouais. Toute une législation que Dieu donne, si je la prends telle qu'il nous est montrée. À Moïse, qui frappe son père ou sa mère sera mis à mort, qui dérobe un homme, qu'il l'ait vendu ou qu'on le trouve en sa possession sera mis à mort, qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Lorsque des hommes se disputent et que l'un frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, sans qu'il en meure, et qu'il doive s'aliter, si celui-ci se relève et se promène dehors avec sa canne, celui qui a frappé sera quitte. Seulement, il devra payer son chômage et assurer les soins. Chercher l'intelligence. Hein. Lorsqu'un homme frappe du bâton son esclave ou sa servante et qu'il meure sous sa main, il devra subir la vengeance. Cependant, si ce dernier survit un jour ou deux, il ne sera pas vengé. C'est son argent. Lorsque des hommes en se battant, heurte une femme enceinte et la font avorter. Sans autre dommage, le coupable devra verser l'amende que lui imposera le mari de la femme et il paiera après arbitrage. Mais s'il y a dommage, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure.